Mais d'abord, une conversation que j'avais bien hâte d'avoir avec une femme au parcours remarquable. Elle s'appelle Virginie Thioux. Bonjour Virginie.
Bonjour Catherine.
On l'a joint en Belgique, chez elle. Elle est installée en Belgique où elle a fait sa vie, mais elle a découvert par un concours de circonstances absolument étonnant des racines françaises. Virginie Thioux, qui dans la vie est analyste en droit européen des télécommunications et des nouveaux médias. On est très loin de tout ce qui pourrait être ésotérique, Virginie. Vous avez l'air à l'origine d'une personne assez posée, je dirais même un peu cartésienne d'après vos fonctions. Est-ce que je me trompe?
Non, vous ne vous trompez pas du tout. Oui, tout à fait. J'ai été élevée dans un milieu extrêmement cartésien, les pieds sur terre, le volontarisme d'abord.
Ouais.
Quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. J'ai beaucoup étudié. J'ai étudié les langues germaniques, la littérature. Et puis, je suis partie dans le secteur des nouvelles technologies, des télécommunications. Où j'ai, en effet, maintenant, je travaille dans le domaine de l'économie numérique.
Voilà. Alors, quand on veut, on peut. Vous l'avez dit vous-même, vous avez voulu avoir une famille. Vous vous êtes mariée, vous êtes tombée enceinte. Votre premier fils, Adrien, est né. Il a maintenant 15, 16 ans, je pense.
Ah, il a 19 ans, Adrien.
19 ans, d'accord. Au moment du début du récit, je pense qu'il avait à peu près 15 ou 16 ans, c'est ça. Alors, Virginie Thioux, votre premier enfant naît. L'accouchement est extrêmement difficile. Vous vous retrouvez avec des douleurs qui vous handicapent et qui restent là, mais pendant des années.
Qui restent pendant des années. Donc des douleurs, ce qu'on appelle des douleurs... Alors en Europe, on appelle ça le nerf honteux. Vous, au Québec, je pense que vous appelez ça le nerf pudendal. Des douleurs périnéales. J'étais fermée comme un grand... Enfin, mon bassin était comme un grand bloc de pierre. Et je traînais ce bloc de pierre. Toujours, je ne pouvais pas m'asseoir. J'étais plus capable de m'asseoir. On m'avait opéré du coccyx. Et je marchais maximum 250 mètres. Ma vie, j'avais pas de vie de femme.
Avec une canne, là, par moment aussi, là.
Avec une canne, oui, exactement. Ouais. Une canne, une chaise roulante pour les déplacements un peu plus longs. Plus de vie de femme, plus de vie non plus active, puisque je pouvais plus travailler.
Ouais.
J'avais été obligée d'arrêter mon métier.
Ouais.
Et incapable aussi de m'occuper de mon petit garçon comme j'aurais voulu le faire, parce que j'avais besoin du soutien, notamment de ma belle-mère autour de moi.
Constamment,
voilà, c'est
ça.
La vie qui s'écroule.
La vie qui s'écroule.
Alors que pourtant la vie naît.
Oui, et ça va durer comme ça quelques années, de spécialiste en spécialiste. On essaie toutes sortes de choses. Un jour, on envisage une chirurgie. Vous êtes presque prête à consentir, même si on sent que vous n'êtes pas emballée à cette idée-là. Mais vous rencontrez un chirurgien très particulier qui va vous faire une proposition étonnante, Virginie Thioux.
Exactement. Donc, ce chirurgien me propose, au lieu de m'opérer, un traitement par hypnose, un traitement de la douleur par hypnose. Et ce chirurgien me dit, chirurgien viscéral à Bruxelles, me dit, je pense qu'il faut arrêter le carrousel médical. Et je pense qu'il y a moyen de déconnecter ce fusible de la douleur. Il me dit aujourd'hui qu'il ne savait absolument pas dans quoi il s'embarquait avec moi, dans quel voyage il s'embarquait avec moi. Mais il me propose en fait ce traitement de la douleur par hypnose. Et c'est vrai que moi, au bout de 2 ans d'un parcours, d'un carrousel médical effroyable, où on m'a piqué, opéré, enlevé le coccyx, et que rien ne marchait, rien, j'ai pas hésité à lui dire oui. Et pourtant, on était en 2000 ans. En 2001, on ne parlait pas encore de traitement de la douleur par hypnose, ni même d'anesthésie par hypnose.
Ouais.
Et donc, lui, pourtant,
c'est ça, avait cette formation et c'est lui qui va procéder. Et il y aura tout près d'une dizaine de séances. Rapidement, il va se déclencher. D'abord, si j'ai bien compris en lisant votre livre, très rapidement, il va avoir un effet bénéfique sur votre état.
Oui, exactement. Alors, c'est assez peut-être dissonant ce que je vais dire, mais à la fois, il y avait un effet bénéfique sur ma santé, sur l'état physique. Mais en contrepartie, il y avait un affaiblissement mental. C'est-à-dire que mentalement, j'étais extrêmement triste. Et moi qui étais une fille plutôt dynamique, volontaire et toujours dans la joie, je me retrouvais avec une boule dans la gorge. Et comme je dis, au fond, la boule de mon périnée, ce qui bloquait mon périnée, m'est remontée dans la gorge, comme une boule quand on a envie de pleurer.
Ouais.
Et je comprenais pas ce qui m'arrivait.
Ouais.
Parce que j'avais... Une des premières phrases que j'ai dit chez le chirurgien, parce que, en fait, quand il m'a proposé ce traitement par hypnose, il m'avait dit, voilà, il y a juste quelque chose que vous devez savoir. C'est que quand on ouvre les tiroirs de l'inconscient, il peut y avoir des souvenirs difficiles qui vont revenir. Il peut y avoir des surprises.
Ouais.
Mais moi, j'étais certaine qu'il n'y avait aucune surprise.
Ouais.
Et ce que je lui ai dit, c'est, vous savez, dans ma famille, il n'y a pas de cadavre dans les placards. j'étais certaine de mon coup.
Oui, pas de cadavre en tant que tel, mais des secrets. Et il y avait un immense secret.
Il y avait un immense secret concernant ma naissance.
Ouais. Et ce qui est très particulier, c'est que vous allez avoir une intuition qu'il y a quelque chose qui concerne votre père, très rapidement, par des images qui viennent de l'auto-hypnose.
Oui, alors oui, parce qu'en fait, ce qui se passe quand vous êtes en état d'auto-hypnose, comme ça, donc c'est de l'auto-hypnose. Hein. Moi, j'ai jamais eu l'impression d'être... J'étais guidée, c'est-à-dire qu'il accompagnait mes rêves éveillés. Donc moi, j'avais une espèce d'écran de cinéma devant moi. Enfin, c'était ça mon image. Moi, c'était un écran de cinéma et puis il y avait des flashs qui arrivaient. Et très vite, plusieurs petits indices m'ont dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec ma naissance à moi.
Ouais.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai été voir ma mère plusieurs fois, mais ma mère refusait de parler. Elle me disait, mais non, tout va bien. Ma grand-mère aussi me disait, mais non.
Et en même temps, vous décrivez très bien leur réaction. Vous sentiez bien qu'elles se refermaient toutes les deux, qu'elles vous cachaient précisément quelque chose. Et il y a des images, entre autres, une qui m'a beaucoup frappée. Vous voyez votre père sans tête dans un de vos rêves éveillés.
Ah oui, c'est un vrai cauchemar.
Tout près du moment où vous vous réveillez d'une séance. Et là, vous dites carrément à votre médecin, on arrête tout, ça va pas, je pense que je deviens folle. J'ai l'impression que mon père n'est pas mon père. Et il va vous répondre quoi?
Et il va me répondre, vous n'êtes pas folle, et je ne l'ai pas lu dans la Gazette. Et il m'explique que ma mère, au bout, je pense, de quelques séances d'hypnose, est venue le trouver. Et est venue le trouver, pour lui demander de... Alors, je ne sais pas si c'était pour lui demander exactement d'arrêter de me soigner, mais en tout cas pour lui dire, voilà, qu'il y avait bel et bien un secret concernant ma naissance, et que, en effet, mon père... adoptif. Mon père n'était pas mon père et que mon père biologique était un Français du sud de la France. Mais elle lui a rien dit d'autre. Elle lui a juste dit, voilà, c'est un Français et puis elle a quitté le cabinet et disons que mon médecin, lui, a estimé qu'il n'avait pas arrêté de me soigner et que la thérapie donc devait continuer.
Mais il sentait que c'était important que vous le trouviez toute seule, que vous vous rendiez, en tout cas, aux portes de ce secret-là vous-même.
Oui. Exactement. Ouais. Et je pense que c'est vraiment très, très important, hein, notamment quand on fait ce genre de thérapie, d'agir à son rythme. Parce que je pense que si on me l'avait annoncé comme ça, même au bout de la première séance, j'aurais été encore beaucoup plus mal que ce que j'ai été.
Ouais.
Ici, c'est mon inconscient qui, progressivement, en fait, m'a livré des informations et m'a mis au parfum.
Ouais. Et Virginie, dès que... Là, on est à la fin de la première partie de votre livre, ça se termine. Et dès ce moment-là, il y a vraiment un déblocage dans votre corps. Tout n'est pas réglé, mais il y a un déblocage.
Je pense que ça a été un déblocage peut-être en 2-3 heures de temps. Ça paraît extraordinaire ce que je vous dis, mais en fait, moi, je suis rentrée de l'hôpital à 4 heures de l'après-midi. Et mon mari et moi, nous avons mis en route notre petite fille le soir même.
Et dans le bonheur, ce que vous aviez peu connu.
Dans le bonheur et la joie. Et la joie, alors je ne vais même pas dire retrouver, mais trouver.
Ouais.
Parce que je pense que cette vérité sur moi-même a fait que moi, j'ai pu m'incarner en tant que femme. J'ai pu enfin, comme je dis, accepter l'autre et m'ouvrir à l'autre dans la joie et le bonheur.
Oui.
Et ça, c'était une première dans ma vie.
Oui. Et là, toute la deuxième partie de votre livre est aussi fascinante parce que vous avez continué par vous-même, en quelque sorte, un travail d'auto-hypnose qui vous a même amené par vous-même à mettre des images assez précises pour retracer un peu qui était votre père biologique. Et ça, c'est un long chemin. Puis encore là, ça a pris un gros combat avec votre mère et votre grand-mère, hein?
Oui, exactement. Parce que comme je me heurtais à un mur, en fait, de leur part, du côté maternel, et que moi, j'avais envie de savoir ce qui s'était passé, puis qui était celui qui m'avait engendré. Le chirurgien qui m'a accompagnée, en fait, m'a donné cette chance, en fait, de me dire, même si votre douleur est partie, je continue avec vous. Et on va voir ce qu'on peut éventuellement retrouver. Mmh. Et disons que là, elles sont apparues quand en fait, vous avez trouvé cette voie vers vous-même, cette voie vers l'inconscient. Vous rêvez, vous, alors, je ne sais pas si je rêvais plus à ce moment-là qu'avant, mais en tout cas, vous vous souvenez d'éléments importants.
Ouais. Oui, parce que ce qui est fascinant dans votre histoire, on va découvrir peu à peu que finalement, il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer que des souvenirs intra-utérins, Virginie Thillot.
Exactement. Oui, en fait, c'était pas des images claires, c'était des sensations, des sons, des bruits, par exemple, de sabots de chevaux dans les graviers. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment dans l'oreille et j'étais persuadée que c'était des sabots de chevaux. Or, il n'y avait pas de chevaux autour de moi. J'avais jamais grandi avec des chevaux autour de moi. Des clairs-obscurs aussi, des contrastes comme ça, des contrastes, des voix, un espèce de vent, un vent extrêmement puissant qui soufflait et qui soufflait aussi à travers mes nuits, mes rêves. Et au fond, ce sont ces sensations. Je veux dire, c'est presque vision et ces sons qui m'ont permis de débloquer ma grand-mère. Mmh. Parce que quand j'ai eu ma petite fille qui avait à peu près 2-3 mois, moi j'ai commencé à avoir très très peur pour elle, bien plus que pour moi. J'avais une fille, j'ai eu la chance entre-temps de rencontrer un autre chirurgien qui est québécois, qui est de Sherbrooke et qui s'appelle Guylain Devroude. Et ça a été une deuxième chance dans mon parcours. Et c'est vrai que lui m'a parlé de transgénérationnel à l'époque. Mmh. Il m'expliquait que les choses qu'on ne disait pas se transmettaient et qu'au fond, la vérité d'une famille, elle se transmettait de génération en génération. Et c'est vrai que quand j'ai eu cette petite fille dans les bras, je me suis dit, pour mes enfants et pour cette petite qui vient de naître, je n'ai pas le droit de ne pas savoir, mm-hmm. même encore plus que pour moi. Mm-hmm. Et donc, un jour, j'ai été trouver ma grand-mère avec ma fille dans les bras et je lui dis, voilà. Alors, voilà ce que je sens, voilà ce que j'entends et voilà ce que je vois. Qu'est-ce que c'est? Et là, ma grand-mère me dit, mais comment peux-tu savoir ça?
Oui, parce que ça correspondait finalement à toutes ces sensations-là.
Au domaine, voilà, ça correspondait à l'univers du domaine viticole de mon père.
Voilà.
Mon père était vigneron dans le sud-ouest de la France.
Oui. Et vous allez, ça, c'est tout le reste de l'histoire, c'est que vous allez retourner sur les lieux. Vous allez réussir à rencontrer cet homme qui est en fin de vie, qui a une fin de vie pas très heureuse ni lumineuse.
Non, pas très vaillante.
Par contre, le grand cadeau de la vie, ce sera de découvrir des cousines, Virginie Thillot.
Ah oui, oui. Puisqu'en fait, mon père, histoire étonnante aussi, il faisait partie de triplés.
Oui.
Il avait un jumeau et une jumelle. Et il se fait que donc ma tante, donc la sœur de mon père, a eu 8 enfants. Et toutes des cousines. Et d'ailleurs, ces voix de petites filles, je les entendais aussi dans mes rêves,
oui.
Dans mon état de transe.
Et d'ailleurs, ce sera confirmé, parce que là, non seulement pour les sceptiques, on va dire qu'il y a eu éventuellement un test d'ADN qui a confirmé ce lien biologique, mais que deuxièmement, vous avez su par des cousines qu'effectivement, elles avaient eu connaissance, des cousines plus âgées, toutes petites,
elles
avaient eu connaissance.
Ma mère.
Elles connaissaient votre mère enceinte de vous, là. Donc c'est...
Voilà, exactement. Ouais. Et elles jouaient au croquet ensemble quand maman était enceinte de moi, puisque maman est retournée seulement en Belgique 15 jours avant d'accoucher.
Ouais.
Ce qui explique aussi.
Tous ces souvenirs intra-utérins, enfin, ce qu'on croit être.
Je pense que l'enfant perçoit énormément de choses à travers le ventre de sa mère.
Oui. Alors, Virginie Thillot, une histoire d'immense souffrance, mais qui se termine bien. J'ai simplement envie de vous demander, à ce jour, comment sont vos relations avec votre mère? Est-ce qu'elle a trouvé la paix avec tout ça?
Je l'espère. Les relations, elles sont toujours là. Ma mère a lu mon livre avant qu'il ne soit publié. Je lui ai proposé, je ne lui ai pas imposé, je lui ai proposé. Elle l'a lu et elle m'a dit qu'elle en avait eu une lecture émouvante. Maintenant, je pense que ma mère a 70 ans et elle m'a dit, c'est une des seules choses qu'elle m'a dit, je me suis toujours enfermée dans ma tour pendant près de 40 ans. Si je m'ouvre maintenant, je croule.
Ah.
Et donc, je ne le ferai pas.
Mm-hmm.
C'est trop tard.
Ouais.
Alors que moi, je pense que dans la vie, on ne sait jamais trop tard.
Ouais.
Mais ça, c'est son choix à elle.
Mm-hmm.
Je pense aussi que tout ce chemin m'a fait comprendre que Voilà, on a une mère et ma voix de fille, elle est séparée de celle de ma mère. Mmh. Voilà, le cordon a été coupé et je pense qu'elle a sa voix et je dois accepter cette voix-là.
Ouais. C'est très grande sagesse et c'était de sa part aussi honnête d'être capable de l'exprimer comme ça. Alors, pour tous les auditeurs là, qui sont sûrement fascinés par ce parcours, sachez que le livre de Virginie Thiot, Voyage en mer intérieure, il est disponible ici en version numérique sur plusieurs plateformes, même des plateformes canadiennes. Et mercredi, en version papier sur le site de la maison de votre éditeur, Caire, K-E-R. On va mettre un lien sur notre site pour que les gens aient accès à ce récit. Virginie Thiot, en terminant, j'ai commencé en évoquant le fait que vous étiez une personne rationnelle, je le répète, l'analyste en droit européen des télécommunications. Oui. Est-ce que vous-même, parfois, il vous arrive de dire non, mais quelle histoire? Et d'avoir vous-même...
Oui,
des...
bien sûr.
Oui?
Oui. Rassurez-vous, oui. Oui, oui. En fait, tout au long du parcours, je me suis dit, mais c'est une histoire de fou.
C'est une histoire de fou.
Oui, c'est une histoire de fou. Maintenant, je pense aussi que je me suis rendu compte et je pense que c'est important et que ça fait partie de la... en tout cas, ce que j'ai envie de transmettre aussi avec cette histoire, c'est que on pense tous que c'est le mental d'abord, que notre cerveau active le reste. Moi, je suis toujours partie de ce point de vue-là.
Et que quand on veut, on peut.
On peut, voilà. Et j'ai envie de dire que le corps est bien plus sage que notre mental, que le corps parle, que le corps ne
ment jamais. Il a sa mémoire
aussi. Et il a sa propre mémoire et qu'il est bien plus intelligent que nous et que ça vaut la peine d'être à son écoute, vraiment. Et de ne pas en avoir peur non plus.
Merci
Mais
infiniment.
Que quand il a quelque chose à nous dire, il faut l'écouter.
Oui. Merci infiniment, Virginie Thiot, pour ce livre et pour cet entretien ce matin. À la prochaine.
Merci, Catherine Perrin, pour votre intérêt. Et puis, voilà, le Québec était un rêve de petite fille et il faudra vraiment...
Ah ben oui, ben alors, vous nous faites signe si vous venez. Au revoir.
Voilà, au revoir, Catherine.